Je vais commencer d'abord par le bilan de la dernière journée. On a malheureusement 6 nouveaux décès, donc un total de 31. Donc, évidemment, j'offre mes condoléances à la famille et aux proches de ces victimes. Ce n'est pas des statistiques, c'est des vraies personnes. On a maintenant 4162 cas confirmés. C'est une augmentation de 732. On a 286 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 51. Et on a 82 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 4. Donc, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour, là. Très peu de personnes, toute proportion gardée, qui sont aux soins intensifs. Notre grande priorité actuellement, c'est vraiment tout l'équipement médical de protection. Je parle des masques, en particulier les masques de procédure. Je parle des gants, je parle des blouses. Chaque jour, on fait le point de façon très détaillée avec le ministère de la Santé, avec le secrétaire général du gouvernement qui est aussi impliqué. Et je veux aujourd'hui être clair, je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes qui devraient arriver dans les prochains jours. Et on a bon espoir d'être capable de passer au travers, là. Donc, je ne veux pas inquiéter personne. Je veux aussi en profiter... pour remercier mon ami Doug Ford qui a accepté ce matin de nous transférer certains équipements. Donc, j'apprécie beaucoup ce geste de la part du premier ministre de l'Ontario. Je veux remercier aussi Justin Trudeau, Chrystia Freeland, qui travaillent très fort à sécuriser certaines commandes à l'étranger avec les ambassades. Donc, merci pour votre aide. Je veux saluer aussi les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des masques, entre autres le groupe Jean Coutu, qui en a 1,3 million de masques, qui ont accepté de nous les transférer. Mais je veux reprendre le message que je passe depuis quelques jours au personnel de la santé. C'est très important, là, si on veut être capable d'avoir des masques pendant toute la durée de la crise, très important qu'on utilise les masques seulement quand c'est essentiel, quand c'est nécessaire d'être utilisé. Daniel est en train de renvoyer avec son équipe là, des procédures pour quand on utilise quel équipement, mais très important, plus que jamais. Puis, écoutez, on n'est pas différent des autres. Là. Si vous écoutez les chaînes de nouvelles, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, partout, il y a un peu comme une course aux équipements de protection. Donc, on n'est pas différent des autres. Puis évidemment, bon, il faut être capable d'en avoir dans ce qu'on appelle le pic, là, le sommet de la courbe. Donc, on est tous dans la même situation. Aujourd'hui, je veux passer un message spécial pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont seules. C'est normal que ça soit difficile à vivre et c'est pour ça que je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas seules, qui ont la chance d'avoir un conjoint, une conjointe, de la famille, des parents, des enfants, s'il vous plaît, appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, là, comme responsabilité. Je le disais à mes deux gars hier, appelez votre grand-mère, elle va être contente. Tout simple que ça, là. Si tout le monde appelle une personne seule aujourd'hui, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de Québécois. Mes remerciements du jour, je veux vraiment les faire aux chercheurs. On a beaucoup de chercheurs actuellement au Québec qui travaillent jour et nuit pour trouver des médicaments, vaccins. Je pense, entre autres, au docteur Tardif, à l'Institut de cardiologie. Puis j'en profite pour passer un message pour lui. Actuellement, il y a besoin de milliers de participants pour ses recherches, pour ses études, ça prend des personnes qui ont la COVID-19. Donc, je vous demande, là, on va mettre les coordonnées du docteur Tardif sur le site web du gouvernement, mais ça pourrait permettre de sauver des vies. Si vous êtes capable, vous avez la COVID-19, vous acceptez de participer aux recherches du docteur Tardif. Ça semble très prometteur, ce qu'il fait. Puis j'en profite aussi pour remercier tous les chercheurs, chercheuses. Il y en a plusieurs qui travaillent sur plusieurs projets qui, on l'espère, vont aboutir le plus rapidement possible. Et je termine en répétant mes trois priorités. Pas de sortie, sauf si c'est absolument nécessaire. Si on sort, on se tient à 2 mètres des autres personnes. Puis quand on rentre de notre marche ou de notre sortie à l'épicerie, on se lave les mains avec du savon pendant 20 secondes. Donc, moi, je pense que si on respecte ce plan-là, on va sauver des vies de Québécois. Donc, ça vaut la peine de le faire, puis je compte sur vous.
Quelques mots en anglais?
Oui.
Alors, petit retour, Julie-Christine, sur ce qui vient d'être dit. On s'est regardé tous les deux quand on a entendu le PM dire pour certains équipements, on en a seulement pour 3 à 7 jours, là.
On en est là. Il a été très authentique. Oui, il a été... cacher les choses.
Oui, oui, ça, c'est franc, là.
Oui, c'est pour ça qu'on dit aussi aux gens dans les hôpitaux, utiliser le matériel lorsque c'est strictement nécessaire. Mmh. On sait que c'est pas évident,
c'est pas
mais
évident.
Les chiffres, vraiment, ouais. 4162 cas confirmés, une augmentation de 732.
Oui, c'est vraiment beaucoup.
6 nouveaux décès pour un total de 31. Le seul chiffre qui donne un peu d'espoir, c'est qu'il y a 82 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de seulement 4 cas.
Ouais.
Il y a 286 personnes hospitalisées, une augmentation de 51. Alors, on savait que la semaine serait difficile. Mm-hmm. On en a la preuve. Ouais. Espérons qu'on va atteindre le fameux pic bientôt.
Oui, c'est ce qu'on l'espère. Hein? On l'attend. Puis pour l'atteindre, ben il faut continuer à respecter les consignes. Puis il nous les a répétées à la fin, le premier ministre. Il nous a demandé aujourd'hui la demande du jour. Hein, il nous passe des petites commandes.
Oui.
Hein?
Demandez aux jeunes, appelez vos grands-parents,
c'est
les
ça.
Personnes seules.
Hein,
c'est un mandat qu'on se donne aujourd'hui.
Oui.
Les familles, hein, donnez-vous comme mandat d'appeler une personne que vous connaissez qui est toute seule aujourd'hui.
Oui, exactement.
Hein, ça prend 20 minutes de votre temps
tout à fait.
Ça fait tellement plaisir à la personne qui est à l'autre bout du fil.
Tout à fait. Et puis, il nous a parlé également de cette étude du docteur Tardif. On a fait une entrevue avec le docteur Tardif il y a quelques jours de ça. Et puis, effectivement, il cherchait des...
6 000.
Oui, il en cherche. Il n'y en avait pas beaucoup. La dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait seulement quelques centaines de personnes.
Oui.
Il cherchait à en recruter dans d'autres pays où ils ont des patients. Je vais vous donner le numéro de téléphone pour l'étude du docteur Tardif.
Il faut être atteint de la COVID-19. Hein?
Voilà. Puis il faut appeler le numéro que je vais vous donner. Dans les 24 heures, vous avez été diagnostiqué. On s'en va aux questions.
Croix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda, il y a un mouvement qui se dessine en ce moment et qui est supporté notamment par des médecins du CHUM, entre autres le docteur Boubaise, qui est chef de service en orthopédie au CHUM, et qui suggère le port du masque dans la population en général. Il y a un mouvement qui part en ce moment et qui s'appelle Mask for All, non pas pour se protéger soi-même de la COVID-19, mais bien d'éviter de transmettre par le biais de particules qu'on pourrait... qui pourraient être transportés, aéroportés, dit-on. Le Washington Post dit ce matin que le Center for Disease Control aux États-Unis est en train d'examiner la possibilité de suggérer à la population en général de porter des masques, même des masques qui sont faits à la maison. Non, évidemment, pas des masques qui sont visés là, par les hôpitaux, les N95, etc., mais des masques faits à la maison. Alors, voici la question suggérée par les médecins du CHUM. Êtes-vous capable, un, de garantir que le port du masque par la population entière n'apporte pas de bénéfices? Et deuxièmement, est-ce que vous découragez les gens de le faire?
Bien, c'est une question intéressante et une question qui soulève beaucoup de discussions actuellement. Il faut comprendre qu'il faut voir aussi le contexte dans lequel on est. On est en pénurie de masques, OK? Étant en pénurie de masques, ici comme ailleurs, puis on n'a pas la culture de port de masque depuis longtemps, étant en pénurie de masques, il faut utiliser le masque pour sa meilleure utilité. OK? Je tiens à vous dire que si on avait des millions, puis jamais, ça c'est important, Le masque va remplacer les mesures d'hygiène de base, de lavage de mains, je tiens à vous le dire, parce que si vous portez un masque et que vous y touchez, vous avez touché à des objets, puis vous vous sentez sécurisé, c'est nuisible. Mais le port du masque peut avoir toutes sortes d'éléments, et on est en train d'analyser, il va y avoir des études qui vont être faites là-dessus, là, parce qu'on n'a jamais vécu ce phénomène-là, c'est différent d'une société à l'autre. Le port du masque peut premièrement entraîner, augmenter la distanciation sociale, parce que quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, vous demandez est-ce que c'est parce qu'il est malade ou il porte en protection, vous vous éloignez. Fait que dans une perspective, je comprends les questions qui sont posées, dans une perspective, je vous dirais, du contexte actuel où on n'a pas de masque, on doit avoir une gestion serrée. Qu'est-ce qu'on fera quand on en aura des millions à donner, on verra, mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Puis est-ce qu'effectivement un tissu, parce que épais, peut diminuer l'exposition des gouttelettes, potentiellement, mais probablement pas au même taux que le masque chirurgical. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends l'orientation que ces gens-là posent comme question, puis je vais vous dire, on va le regarder. On va le regarder selon la situation. Mais je tiens à vous dire, ça ne sera jamais l'alternative à une mesure de distanciation sociale, et puis parce qu'il faut être capable de le porter adéquatement. Et même en situation de procédure, même en milieu hospitalier, quand le chirurgien fait une opération, si jamais il se contamine en touchant un endroit ou un autre, il y a une infirmière qui le surveille. Donc, vous comprenez là que l'importance, oui, le masque peut être un instrument, oui, le masque doit être donné à des gens qui ont des symptômes en milieu de soins, oui, le masque est important pour celui qui va donner des soins à quelqu'un qu'on connaît malade. Est-ce que le masque dans la communauté va être l'élément le plus crucial dans la lutte contre la maladie? Je vous dirais qu'il peut peut-être y contribuer par différents effets, même pas physiques, mais psychologiques ou autres. Mais, par contre, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas faire cette recommandation-là parce que nous allons priver les patients malades et les personnels de soins d'un outil qui est nécessaire.
Mais j'espère que vous avez bien compris la nuance, Dr. Arruda, que, entre autres, qui étudie le CDC aux États-Unis, ce n'est pas de porter des masques qui sont pour le personnel de la santé. La recommandation, c'est de fabriquer soi-même un masque pour éviter que les particules soient projetées sur d'autres personnes,
moi,
pas
là,
pour se protéger soi-même.
Si quelqu'un veut se faire des masques en tissu, OK, j'ai pas de problème. Je veux dire, ça puis il peut le faire, je pense que ça peut être fait. Mais il faut pas qu'il utilise le masque comme en pensant que c'est juste le masque qui va régler son problème. Il doit avoir une hygiène impeccable des mains, etc. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, est-ce qu'on va regarder la recommandation, on va voir ce qu'il y en est. Est-ce que ça sécurise les gens, si ça a un effet sur leur sentiment de protection, pourquoi pas? Mais je peux pas vous dire, je peux juste vous dire que où je veux pas que ça nuise, c'est que les gens oublient les autres méthodes qui sont plus importantes que le port du masque.
Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil.
Bonjour. Une hausse de 732 aujourd'hui, évidemment la hausse la plus importante. Vous nous dites que les stocks sont courts. Le plan B, c'est s'il en manque, c'est quoi?
Bien, évidemment, il faut commencer par une utilisation juste pour les besoins qui sont essentiels de l'équipement. Ça, c'est important, là, parce qu'il y a des grosses variations d'un établissement à l'autre sur l'utilisation du matériel de production, de protection, pardon. Maintenant, on travaille très fort, un peu plus pour le moyen terme, à avoir des entreprises québécoises. Bon, je parle beaucoup avec Doug Ford aussi pour travailler conjointement avec des entreprises de l'Ontario qui pourraient fabriquer notre propre matériel. Sinon, bien, écoutez, on regarde partout où on est capable de commander. C'est une. Je ne cacherai pas, là, ça je le dis aujourd'hui, c'est une préoccupation, mais c'est la même préoccupation qu'ils ont dans plusieurs États aux États-Unis, par exemple. Personne ne s'attendait à ce qu'on utilise autant de masques, par exemple.
Une autre stratégie qu'on a, par exemple, avec les masques N95, hein, il y a deux sortes de masques, les N95 et les masques de procédure. Pour les N95, là, on demande aux gens maintenant de les désinfecter, donc de les réutiliser. Ça se fait. Et oui, on a commencé à le faire. À ce moment-là, on conserve notre marchandise, là, nos stocks. Et ça, c'était très important pour les N95 parce qu'on sait que les N95, on les utilise seulement dans certaines circonstances, mais majeures, quand on fait des procédures sur des personnes qui ont la COVID-19 ou d'autres là, qui sont infectés, des intubations, par exemple, des chirurgies. ou que d'autres procédures là, qui sont très près et invasives. Alors, on a vraiment besoin de ces masques-là. Donc, on a commencé à désinfecter ces masques-là. Et pour les masques de procédure, hein, les masques chirurgicaux là, qu'on appelle, évidemment, la directive, c'est vraiment de les utiliser quand c'est nécessaire. Et la santé publique est claire là-dessus. Si quelqu'un est infecté, un patient, à ce moment-là, on lui met un masque. La personne qui donne le soin, évidemment, va porter un masque. Mais dans d'autres circonstances, quand les personnes ne sont pas infectées, dans le courant de tous les jours, les personnes n'ont pas besoin de masque. Par exemple, en CHSLD, en maintien à domicile, à moins que les personnes soient infectées, bien entendu. Alors, on veut, de cette façon-là, vraiment protéger notre quantité de masques, de procédures, entre autres. Et évidemment, les consignes, c'est se laver les mains et, autant que possible, garder 2 mètres de la personne. Si on a un soin à donner et que la personne est infectée, il faut porter le masque, bien évidemment.
Que vous pouvez nous dire sur la livraison de l'Ontario, le nombre ou les éléments particuliers qu'on reçoit, c'est quoi?
Oui, bien, c'est encore à établir, là. On a une première livraison qui devrait arriver aujourd'hui, puis possiblement d'autres dans les prochains jours, là. Entre autres des masques de procédure.
Ouais. Isabelle Porter, Le Devoir.
Oui, bonjour. Hier, M. le Premier ministre, vous avez invité les gens qui avaient le besoin de consulter des psychologues. Oui. Or, comme vous savez, il faut payer là, la plupart du temps pour consulter en psychologie parce que dans le réseau public, il y a des listes d'attente très importantes. Puis les gens ont encore moins les moyens de se payer des psychologues actuellement. Comptez-vous offrir des services gratuits ou ajouter des ressources dans le réseau public sur ce plan-là? Et quand? Parce que là, on a l'impression que c'est une période qui est critique sur ce plan-là.
Oui, vous avez raison. Puis on a déjà commencé. On sait qu'il y a 325 000 personnes là, qui ont un problème de santé mentale, là, qui sont déjà connues de nos intervenants. Alors, c'est déjà commencé. On a demandé à nos intervenants de tous les appeler. Mais non seulement tous ces gens-là, mais aussi ceux qui sont sur la liste d'attente. Hein, il y a des gens qui attendaient pour des services. Alors, ils vont tous les appeler. Alors, ça, c'est important. Puis on dit à la population aussi, si vous avez besoin de services, appelez votre CLSC. Et on va s'organiser pour leur donner, évidemment, le plus possible par téléphone, hein, pour des raisons qu'on comprend, la distanciation sociale. Évidemment, si on a besoin de les voir, on s'organise pour les voir, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par téléphone. Et même, on implante actuellement la téléconsultation de plus en plus dans notre réseau. Alors ça, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Et il faut dire aussi qu'il y a des lignes téléphoniques d'aide aussi, si les gens veulent les utiliser. C'est important. Mais autrement, si les gens ont besoin de services psychologiques ou des services psychosociaux, appelez votre CLSC ou vous allez être appelé là, si vous êtes connu ou si vous êtes sur une liste d'attente.
Admettons, moi, je suis un travailleur qui a perdu son emploi, je suis en détresse.
Oui.
J'ai besoin de ce genre d'aide-là. Vous dites que si j'appelle à mon CLSC, je vais pouvoir avoir de l'aide rapidement à l'heure actuelle?
Oui, vous pourriez avoir de l'aide téléphonique. Et on pense aussi à une autre stratégie qu'on est en train de travailler, où est-ce qu'on aurait peut-être une organisation au niveau des lignes téléphoniques existantes pour donner une réponse plus large à la population. Parce qu'on sait que la population, là, on vit des circonstances assez exceptionnelles, difficiles, et on a probablement besoin d'une réponse un peu dans le sens que vous dites, là, quelqu'un qui a perdu son emploi, qui fait une anxiété normale là, par rapport à ça. Alors, on est en train de regarder une stratégie, là, au-delà de ce que je vous ai dit, de gens qui sont connus ou sur une liste d'attente, ou appeler son CLSC, mais une stratégie encore plus globale pour la population du Québec. C'est en train de se travailler actuellement.
Hugo Lavallée, Radio-Canada.
Oui, bonjour. Monsieur le Premier ministre, je veux être certain de bien comprendre la situation en ce qui concerne les équipements de protection, parce que quelques jours encore, vous nous disiez « faisons attention, ne gaspillons pas le matériel », mais vous nous disiez aussi qu'on en avait encore pour quelques semaines. Or, là, aujourd'hui, vous nous parlez d'un délai de 3 à 7 jours avant une rupture de stock potentiel. Qu'est-ce qui explique ce revirement? Est-ce qu'il y a eu du gaspillage? Est-ce qu'on avait mal utilisé les masques ou mal évalué les stocks?
Non, je pense qu'il y a une semaine ou deux, je vous ai dit quelques semaines. Maintenant, il reste une semaine. Non, je pense pas là, que dans les derniers jours, j'ai pas dit quelques semaines. Mais on est dans une situation où les commandes qu'on souhaitait avoir ne sont pas toutes rentrées. On a une situation aussi où l'utilisation a beaucoup augmenté par rapport à ce qui était l'utilisation précédente. Puis pourtant, quand on regarde le nombre d'hospitalisations, là, c'est pas nécessairement corrélée avec l'augmentation des équipements. Donc, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Il y a deux semaines, il en restait pour quelques semaines. Là, il en reste 3 à 7 jours. Puis on espère que les commandes vont rentrer dans les prochains jours.
Mais ce que j'aimerais ajouter là-dessus, vous permettez, M. le Premier ministre, oui. C'est que il faut vous dire là, qu'actuellement, on utilise 10 fois plus d'équipements qu'en temps normal. Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en 4 semaines, à peu près. Alors, ça a changé, puis vous savez, on vous le dit toujours, hein, que les choses changent, peuvent changer très rapidement. Alors, c'est ce qui a changé là, dans les derniers jours. Là. On s'aperçoit, évidemment, parce que la situation évolue et qu'on a besoin d'utiliser cet équipement-là davantage.
Sur un autre sujet concernant les négociations avec les employés de l'État, on a appris donc hier soir la conclusion d'une entente avec la FIC concernant des mesures de santé et de sécurité à prendre immédiatement dans le contexte de la pandémie. On comprend qu'il y a des discussions avec d'autres syndicats là, sur ce thème précis. Est-ce que dans le contexte où on a réglé le plus urgent, là, qui était les mesures de santé et de sécurité à court terme, c'est toujours nécessaire de conclure maintenant de nouvelles conventions collectives avec l'ensemble des employés de l'État? Est-ce que vos énergies ne seraient pas mieux investies à vous occuper d'autres dossiers que celui-là qui semble assez lourd?
Oui. Bien, écoutez, il y a des discussions qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a des mesures qu'on propose qui sont des mesures qu'on souhaite permanentes. Il y a des mesures qu'on souhaite temporaires. Donc, on essaie de tout discuter ça. C'est pas nécessairement simple, même pour les mesures temporaires, à qui ça doit s'adresser, qu'est-ce qu'on fait avec les préposés aux bénéficiaires. C'est pas nécessairement simple.
Maintenant, pour Hugo Pilon-Larose, La Presse.
Quand vous dites, donc, pour les équipements qu'on en a pour 3 à 7 jours, on croit comprendre, donc, que ça concerne, entre autres, les masques. Il y a des médecins qui demandent, entre autres, au Collège du médecin, s'ils doivent, déontologiquement, poursuivre de traiter des patients atteints de la COVID-19, si jamais on est en pénurie de masques. D'abord, est-ce que vous excluez que les médecins soient confrontés à ce dilemme? Et si oui, que doivent-ils faire?
Ah, bien, écoutez, pour l'instant, il n'est pas question qu'on demande à qui que ce soit procéder à des actes sans être protégé. Là. Donc, on n'est pas là. On vous dit que c'est serré. Travaille très fort sur les commandes, travaille très fort avec l'Ontario, travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Moi, j'ai bon espoir qu'on va être capable de passer au travers. Donc, on n'est vraiment pas à l'étape où on dit aux gens, faites des opérations là, sans vous protéger. On n'est pas là du tout, du tout, là.
En termes d'offres de santé mentale, Mme McCann, vous dites donc que les professionnels, entre autres dans les CLSC, vont pouvoir appeler les gens, notamment ceux qui étaient sur des listes d'attente. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça après la crise? C'est-à-dire, comment ça qu'avant la crise, il y avait des listes d'attente, là, du monde qui souffrait, qui n'arrivait pas à avoir de service. Puis là, aujourd'hui, comme par magie, on arrive à débloquer des fonds ou de trouver des gens pour répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qui va rester une fois que la pandémie va être terminée?
Bien, je pense que c'est une très bonne question que vous posez parce que je vous dirais, à plusieurs niveaux, le réseau est en train de se transformer. Quand je vous parle de consultation par téléconsultation, ça n'existait pas là, à peine dans notre réseau. Actuellement, il y a 30 % des médecins spécialistes en 10 jours qui ont implanté leur plateforme de téléconsultation. Il y en a 12 % au niveau des médecins omnipraticiens en 5 jours. Alors, on continue. Et ça transforme l'offre de services et ça va continuer par la suite, là, c'est clair. On ne peut pas tout faire par téléphone ou par téléconsultation, mais on peut faire beaucoup de choses. Et les gens, souvent, préfèrent ne pas se déplacer non plus et le médecin peut faire son intervention de cette façon-là. Pour la santé mentale, bien, on va développer des plateformes en téléconsultation aussi. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le moyen le plus rapide, le plus simple, c'est le téléphone et c'est ce qu'on va faire. Mais il y a la téléconsultation aussi qui va se développer graduellement. Et notre réseau, quand on va sortir de cette crise, va être transformé à plusieurs niveaux, au bénéfice de la population.
Autour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles.
Bonjour à vous. Madame McCann, je vous ai posé la question il y a quelques jours, voire même plus d'une semaine, concernant l'utilisation du matériel de fortune dans des hôpitaux. Encore aujourd'hui, dans un hôpital de la Rive-Sud de niveau 2, on utilise des masques, c'est-à-dire des visières de protection fabriquées avec des acétates.
Monsieur Laforêt, les visières de protection, là, d'abord, on en a commandé, il y en a qui j'espère, vont être reçues. On en a un certain nombre, mais des visières, là, ça se désinfecte. Alors, moi, je vais m'informer de ce que vous dites et je vais y voir parce qu'il faut absolument que le personnel ait le matériel qu'on leur fournit, qu'ils en aient suffisamment et surtout dans un niveau 2, absolument. Une visière, ça se désinfecte. Et ça, je vais y voir, je vais m'assurer qu'on a une visière appropriée. Il n'y a pas de raison d'avoir une visière de fortune dans un hôpital, dans n'importe quel hôpital du Québec.
Est-ce que c'est possible actuellement, et la FIC soulève ça, qu'il y ait une distanciation ou un problème entre ce que vous, en tant que gouvernant, vous dites et l'application qui se fait dans les directions, soit les CIUS ou les directions de centres hospitaliers. Entre autres, la FIC qui a mis en ligne un site, je dénonce, parce qu'on dit que dans certains hôpitaux, le message que vous envoyez, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain.
Ça progresse, mais je comprends. Et moi, j'ai parlé à toutes les centrales syndicales hier, dont la FIC d'ailleurs. Et moi, je vous dirais que ce que je dis maintenant, c'est non seulement il faut aplatir la courbe, il faut aplatir la structure. Si vous me suivez, ce que je veux dire, c'est qu'on a de grandes organisations, mais il faut se rapprocher du terrain, avoir des processus très clairs par rapport au matériel, par exemple, et au protocole. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir certains endroits au Québec où il y a des améliorations à faire. Mais j'ai parlé également au président directeur général vendredi dernier, je leur ai parlé hier, et déjà en 3 jours, je vous dirais, il y a beaucoup, beaucoup de progrès. Il faut savoir qu'on est en train de faire des choses à la vitesse de l'éclair en 2 jours, que dans le passé, on aurait fait en 1 mois. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on veut être au courant. Et moi, je comprends que la centrale syndicale, la FIC, a mis ce site Web-là. D'ailleurs, on a des liens constants. Mon chef de cabinet parle aux centrales syndicales aux 2 jours. Alors, on veut être au courant, on veut savoir où est-ce qu'il y a des problèmes pour aider, pour supporter nos établissements et nos équipes et vraiment que ces processus-là soient optimaux pour protéger notre personnel. Alors, ce qu'on dit, oui, on va avoir des nouvelles du terrain. D'ailleurs, moi-même, j'appelle là, pour avoir des nouvelles. J'ai appelé le président de la FMOQ, la présidente de la FMSQ. J'appelle les centrales syndicales. On veut des nouvelles du terrain parce qu'on veut supporter nos établissements et nos équipes dans un processus le plus rapide possible et le meilleur possible.
Donc, c'est ce point de presse de François Legault qui se poursuit. Vous aurez compris là, que la nouvelle du jour, c'est vraiment le fait que pour certains équipements, on n'en a plus que pour 3 à 7 jours. C'est le premier ministre François Legault qui l'a affirmé.